Le célèbre catalogue Walker et Downes par Davide Morosinotto. Comment nous sommes devenus riches avec 3 dollars. Le livre que vous vous apprêtez à lire est une œuvre d'invention. Toute référence à des faits, des lieux, des sociétés ou des personnages existants ou ayant existé est purement fortuite. Cette histoire a par ailleurs pour toile de fond un passé révolu. La consommation d'alcool et de cigarettes par des mineurs, les jeux de hasard, les allusions à caractère sexuel ou racial et en résumé tous les éléments scandaleux présents dans cet ouvrage reflètent la sensibilité de l'époque où se déroule cette histoire et sont susceptibles de heurter un enfant moderne et responsable. À ces enfants modernes et responsables, je conseille donc de lire ce livre à l'abri des regards de leurs parents. Première partie, le Bayou. Chapitre 1, l'heure de poisson fantôme. Tout a commencé avec le meurtre de Mr. Dursley. Encore que non, en y réfléchissant bien, tout a commencé quelques semaines plus tôt, l'après-midi où on a fini de construire le canoë. C'était vraiment un beau canoë. On avait passé des mois à chercher le bon arbre, jusqu'à ce qu'on trouve un grand cyprès robuste qui poussait dans l'eau. On l'avait abattu à coups de hache. Enfin, c'est surtout moi qui m'y étais collé. Julie aussi, un peu. Eddie, lui, s'était plaint qu'une fille ne devrait pas couper des arbres. Et Mine nous avait regardés sans rien dire. Mais ce n'est pas comme si Mine avait l'habitude de dire quoi que ce soit, pour être honnête. Une fois le cyprès coupé, on avait creusé le tronc pour nous fabriquer 4 sièges confortables et raboté la coque pour ensuite le poncer avec du sable, d'un bout à l'autre, en frottant jusqu'à ce que nos mains saignent. S'il nous avait fallu des mois pour finir ce travail, c'était aussi parce qu'on avait décidé de laisser le canoë au refuge. Et le refuge était plutôt loin de la maison. Je ne pouvais y aller qu'au coucher du soleil, ou quand maman me donnait la permission. Autant dire, presque jamais. Cet après-midi-là, pour ne rien vous cacher, j'avais décidé de m'éclipser. J'avais raconté à maman que je devais aller à la ferme des Fabrons pour les aider à réparer leur grange. Au lieu de ça, je m'étais précipité au refuge. C'était une cabane qu'on avait construite l'été précédent, moi et les autres de la bande. Elle était pile au bord du bayou, le grand marais, entièrement caché par un labyrinthe de lianes pendantes et des essaims de moustiques, gros comme des hirondelles. Le refuge n'était pas extraordinaire. Il avait un toit tordu et un sol en terre battue, mais personne ne connaissait son existence à part nous. Et ça, c'était un vrai bonheur. Petit à petit, on l'avait meublé avec un tas de choses utiles. On pouvait y arriver en bateau, ou bien en franchissant le pont branlant, et une zone de sable mouvant très dangereux, où des dizaines de personnes étaient mortes à ce qu'on disait. C'est aussi pour ça que j'aimais cet endroit. Aller là-bas était chaque fois une aventure, sans compter qu'on connaissait un passage secret sur la terre ferme, caché dans le marécage. Bref, je suis arrivée à la cabane peu après l'heure du déjeuner, et j'ai retrouvé Julie et Mine qui travaillaient déjà sur le canoë. Ensemble, ils fignolaient les derniers détails. Julie et Mine étaient frères et sœurs, mais quelqu'un qui ne les connaissait pas n'aurait jamais pu le deviner. Julie avait mon âge et elle était très belle. Je ne dis pas que j'étais amoureux ou quelque chose dans ce goût-là, mais ça n'aurait surpris personne. D'ailleurs, les gens du coin l'appelaient Jolie Julie, Joju. Elle avait des cheveux roux et des taches de son, des yeux noirs et des dents écartées, qui lui faisait une drôle de fente sur le devant. Mine, lui, avait la peau couleur chocolat et les cheveux très frisés. Il était petit, à cause de son jeune âge, certes, mais aussi parce qu'il était maigre comme un coucou. C'est pour ça que tout le monde l'appelait Mine, comme minuscule. Julie était blanche, Mine était noire, et ils étaient quand même frères et sœurs, ce qui faisait de la mère de Joju une propre à rien et une catin, en croire mon frère Chuck. D'après lui, c'est pour ça que Mine était née à moitié idiot. Moi, je savais que c'était les sornettes. Mine était très intelligent, et pas qu'un peu. Il préférait ne pas parler, c'est tout. Il regardait, il écoutait, et il n'ouvrait jamais la bouche. Il avait peut-être compris que ce sont les imbéciles qui parlent à tort et à travers. Et pour tout dire, mon frère Chuck n'arrivait jamais à se taire plus d'une seconde. Mine était assise sur une vieille souche et Julie travaillait sur la coque du canoë avec un couteau. Elle finissait de graver son nom, l'effrayant. Je ne les ai même pas salués. Sans faire de bruit, je suis entrée dans le refuge qui puait l'humidité et la boue moisie. Joju avait laissé par terre son sac en chambre. En fouillant à l'intérieur, j'ai trouvé du tabac haché, de quoi bourrer une bonne pipe. De retour dehors, je me suis assis devant le refuge, ma bouffarde à la main, avec un sourire béat. C'est là que Mine s'est aperçu de ma présence. Il est intelligent, je l'ai dit, et m'a pointé du doigt. Julie a cessé de travailler pour essuyer son front couvert de sueur avec un bout de sa jupe, dévoilant un instant deux jambes pâles qui m'ont remué à l'intérieur. « Titroi » a-t-elle crié. « Qui t'a donné la permission de prendre mon tabac ?»« Titroi, c'est moi. » J'ai ricané comme un démon des croisements avant de me lever d'un bond. « Allons, allons, je n'ai même pas allumé la pipe. Laisse-moi le couteau plutôt. On en sera encore là demain matin. » Mais est-ce que Joju était prête à me le laisser ? Plutôt mourir. Finalement, même après avoir insisté un peu, je n'ai eu qu'à faire une croix dessus et à me mettre à raboter la rame. Entre-temps, Eddie était arrivé. Eddie Criquet, Eddie Yeux Bigleux, mon meilleur ami. Il avait un an de plus que moi. Il était beau, grand et maigrichon lui aussi. Je le battais toujours à la lutte d'ailleurs. Il avait les cheveux blonds, de la même couleur filasse que la canne à sucre, et une paire de vieilles lunettes dont les branches étaient maintenues avec de la ficelle. Dans le bayou, personne ne portait de lunettes à part Eddie parce que son père était docteur et il avait fait exprès le trajet jusqu'à la Nouvelle-Orléans pour les lui être achetées. « Je ne me sens pas bien », a-t-il lâché en s'asseyant sur le tronc d'arbre à côté de Mine. « Je crois que j'ai de la fièvre. » Eddie avait toujours de la fièvre. Il allait mal en permanence. Quand il délirait, il prétendait qu'il entendait les voix du marais et qu'il pouvait comprendre le langage secret des animaux. Mais on se doutait bien que c'était les fanfaronnades, rien de plus. L'ennui, c'est qu'il n'y avait pas moyen de le faire travailler des fois, les fois où il se disait fiévreux. Avec Julie, nous nous sommes donc regardés les yeux dans les yeux et nous avons fini le canoë tout seul. Ça nous a pris quelques heures, mais avant le coucher du soleil, il était fin prêt. C'était une pure merveille, un bateau tiré au cordeau, capable de battre en vitesse les vaisseaux qui traversaient l'océan, à tous les coups. Puisque c'est moi qui l'avais construit, c'était bien sûr à moi de le mettre à l'eau. Mais Joju ne l'entendait pas de cette oreille, Eddie non plus. Mine, lui, était déjà monté à bord pour on ne sait quelle raison, et il n'avait pas la moindre intention de descendre. Finalement, on a décidé d'étraîner le canoë tous ensemble et on l'a fait glisser dans l'eau. Il flottait bien, et même plus haut que prévu. On a sauté dedans, les uns après les autres. Je me suis mis debout, et j'ai commencé à donner de longs coups de rame, en esquivant les îlots de cette partie du bayou, et les troncs engloutis qui pointaient comme des doigts hors de l'eau stagnante. C'était une journée aussi chaude que dans un four, et humide, avec un soleil qui restait emprisonné entre les feuilles et colorait le marais d'ombre brisée. J'ai ramé jusqu'à ce que le refuge disparaisse quelque part derrière nous. Puis j'ai fatigué et je me suis assis pour fumer cette pipe que je n'avais pas encore eu le temps d'allumer. « Passe-la-moi, » dit Joju. « Après tout, c'est mon tabac. »« Moi, je ne fume pas parce que j'ai de la fièvre, » a dit Eddie. Tandis que Joju allumait la pipe, j'ai préparé les cannes à pêche avec mon fameux leurre de poisson fantôme. Je l'avais fabriqué moi-même, mais il était encore plus beau que celui du catalogue. « Attention !» s'est écrié Eddie. « Cette zone du bayou est dangereuse !» J'entends de drôles de murmures dans l'eau. « Ce n'est pas vrai !» rétorquait Joju. « Si, si, des susurrements, des chuchotements, des sifflements !» D'après moi, ce sont des mocassins, et il y en a des centaines. Les mocassins d'eau sont des serpents très dangereux. Une morsure et on risque d'y passer. Mais je n'étais pas sûre qu'il y en avait des centaines, comme le disait Eddie. Et puis mon leurre de poisson fantôme ne risquait pas d'attirer les serpents. Alors qu'un poisson-chat, oui. Et même un bien beau et bien gros avec un peu de chance. J'ai donc lancé ma canne et attendu, confortablement installée, en discutant de tout et de rien avec les autres. Eddie nous a appris que Madame Boucher avait eu des contractions pendant la nuit et qu'elle avait donné naissance à une petite fille. Seulement, elle était née avec 6 doigts à la main gauche. Et c'était un signe de mauvais sort. Je n'ai jamais vu quelqu'un croire autant à ces bêtises qu'Eddie Criquet. Joju, pour sa part, a dit qu'elle avait presque capturé une tortue géante qui avait failli lui arracher un pied d'un coup de dent. Si une autre fille avait raconté une chose pareille, j'aurais pensé que c'était des bobards. Mais je connaissais Joju, et si elle le disait, c'est que c'était vrai. Au même moment, ma canne a remué brusquement et risquait de tomber du canoë. Je l'ai rattrapé juste à temps. « J'ai une touche ! Pour tirer aussi fort, ce doit être un vrai monstre !» Eddie s'est levé pour me donner un coup de main, mais je lui ai ordonné de ne pas bouger. Ce n'était pas le moment de faire chavirer le canoë et de nous envoyer tous à la baille. Après tout, il y avait peut-être vraiment des mocassins. Les jambes écartées, j'ai serré fermement ma canne et tiré vers moi, prêt pour un long combat.
C'était un poisson-chat énorme! Aucun doute là-dessus! Le plus grand poisson-chat jamais vu de ce côté du bayou.
Mais je me trompais. Le leurre a refait surface au premier coup sec. Il n'y avait rien au bout de l'hameçon, en dehors d'une boîte en fer blanc trouée et maculée de boue.
« Pouah ! C'est une conserve de soupe de tomates ! Jette-moi ça !» a dit Eddie.
« Ne sois pas bête !» a répondu Julie. « Cette conserve peut nous être utile. On n'a qu'à en faire une lanterne pour le refuge. Comme ça, on viendra même la nuit, j'ai proposé. »«
Mais la nuit, il y a des feux follets !» a gémi Eddie.
« Ce n'est pas vrai !» a dit Joju.
« Bien sûr que si !» a insisté Eddie. « Ils circulent dans le marais comme des flammes bleutées sur l'eau. »
Ces deux-là étaient bien partis pour se disputer. Mémine a mugi quelque chose, tendu les doigts et a été le premier à attraper la boîte. Qui a tinté ?
Allez, fais-moi voir ça !
J'ai pris la boîte, des mains du petit, et renversé son contenu dans le fond du canoë. Il en est sorti une belle quantité d'eau et de boue, et puis trois pièces,
des pièces $1, qui brillaient dans les rayons du soleil comme des petits feux de cheminée. $3 !
A murmuré Eddie en se penchant pour les attraper. Je lui ai donné un coup de poing dans l'épaule qui a manqué de l'envoyer par-dessus bord. Et je l'ai prévenu.
« Halte là, c'est moi qui ai pêché ces pièces, elles sont à moi. »«
Mais c'est ma canne à pêche. »«
Oui, mais la ligne est à moi. »«
Et le canoë est à nous tous, » est intervenue Julie. « D'ailleurs, sans mine et sans moi, vous auriez déjà jeté la boîte et les pièces à l'heure qu'il est. » On s'est arrêté pour les regarder. Elles brillaient tellement qu'on en avait mal aux yeux. Eddie a dit « On pourra en prendre une chacun ?»
« Mais il n'y a que 3 pièces et on est 4, » ai-je rétorqué, « même si Joju et Mine sont frères et sœurs dans le fond. »«
Avec $1, on peut faire un bel achat, » observait Julie, « mais $3 d'un coup, c'est un vrai trésor. »«
D'après moi, faut qu'on décide ensemble comment le dépenser. »«
Je parie que pour $3, Monsieur Travers nous vendra la moitié de sa boutique, » a murmuré Eddie. « J'ai envie de me gaver de caramel mou à m'en faire éclater. » Moi, j'avais une meilleure idée. À la place, on n'a qu'à aller chez Monsieur Fabron et acheter un porcelet. On le gardera ici au refuge et on lui apportera quelques restes à manger tous les jours. Dès qu'il sera grand, on le revendra. Avec les sous, on achètera 3 ou 4 petits cochons, on mettra en place un élevage et dans 5 ans, on sera riche.
5 ans, c'est très long.
Et si le cochon tombe malade et meurt ? Je m'y connais en animaux, ai-je protesté. C'est pour ça que je vais toujours aider les Fabrons quand ils en ont besoin.
« Mais ça ne veut pas dire que... »
Pendant qu'on discutait, Julie s'était contentée d'observer les pièces sans un mot. Tout à coup, elle a eu un sourire, les a ramassées et les a serrées toutes les 3 dans sa main.
« J'ai une meilleure idée !»
J'ai demandé quoi ? Elle a répondu « Le catalogue. On pourrait acheter quelque chose dans le catalogue. »